Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter et merci de nous être fidèles tous les week-ends. Au sommaire de l'émission jusqu'à 13h, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein suivi du débat. Quels sont les grands enjeux du 5 décembre? Faut-il y voir une mobilisation contre la réforme des retraites tout simplement ou un front anti-Macron en train de se constituer? Question de méthode, de stratégie ou de justice sociale ou encore mouvement catégoriel comme le disent de nombreux membres de la majorité? Pour en parler, notre invité, le directeur de l'Institut Montaigne, think tank qui avait fourni quelques-unes de ses idées fortes au candidat Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle. C'était il y a tout juste un an, l'Institut Montaigne passait au crible les premières réformes du quinquennat. Et le directeur de cet institut, Laurent Bigorne, viendra nous rejoindre dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
La directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va revenir avec vous sur quelques-uns des temps forts de la semaine.
Cette tragédie ne peut pas être une remise en cause de notre engagement. Vous imaginez ce que penseraient nos soldats si j'allais leur dire parce que 10, 13, 20 d'entre vous sont morts, notre mission n'a plus de sens.
François Lecointre, chef d'état-major des armées, c'était sur France Inter au début de la semaine après le décès de 13 militaires de la force Barkhane, vous le savez. 13 militaires qui ont péri au Mali dans la collision de deux hélicoptères lors d'une opération de combat contre des djihadistes. Un hommage solennel leur sera rendu lundi aux Invalides. La question qui est posée, est-ce que c'est celle de la présence de la France au Sahel, Natacha?
Alors, je rejoindrai le général Lecointre sur un point. Ce n'est pas parce qu'il y a des soldats qui meurent au combat, qu'il faut ou non décider de l'intérêt de cette mission. Ce sont deux choses qui sont disjointes. C'est une tragédie et qui nous bouleverse tous, mais la mort de soldats au combat fait partie, hélas, du risque qu'ils prennent. Et la question, c'est de savoir, de façon totalement détachée de cela, en effet, comment se construit cette mission, quels sont ses objectifs. Or, la seule chose, moi, qui me frappe, c'est que ça fait tout de même 6 ans que la France est au Mali, et elle est toute seule. Or, ce qui me choque, c'est la question, mais où sont nos alliés? C'est-à-dire, qu'est-ce que la France fait toute seule? Est-ce que la France sert ses intérêts?
Non. Appeler, justement, les alliés de l'OTAN. Parce que la France, justement, portait seule le coût total de cette opération.
De l'OTAN ou de l'Europe, hein. Ça sert à ça aussi l'Europe et nous défendons les intérêts de l'Europe à cet endroit-là parce que je pense qu'une déstabilisation du Mali serait tragique pour l'Afrique elle-même, mais ce serait peut-être pas non plus très bénéfique pour l'Europe.
Gilles Finkelstein.
Oui, je crois que Natacha Polony a raison. On a tous ressenti de l'émotion devant ces visages, en découvrant ces parcours de vie, en éprouvant ce qu'était cet engagement et ces risques. Est-ce qu'il fallait y aller? D'abord, je crois que la réponse est oui, et que l'intervention de la France a été rapide.
En 2013,
elle a été rapide, elle a été efficace, et il faut réhabiliter et François Hollande et la Ve République, François Hollande qui a eu le courage de le faire, et la Ve République qui le lui a permis. Maintenant, on est 6 ans après. Et donc, est-ce qu'il faut y rester? Je crois que la question est une question qui est légitime, non pas parce qu'il y a eu 13 morts, ou non pas seulement parce qu'il y a eu 13 morts. Elle est légitime même s'il y a un délai de décence avant de se la poser, et que lorsque le jour même, les députés de la France Insoumise posent cette question-là, ce délai de décence n'est pas respecté. Mais la question est légitime parce que le bilan est mitigé. Au sens où l'intervention a permis de cantonner les groupes terroristes, mais elle n'a pas permis de les réduire. Ils se sont disséminés et ils se sont même implantés dans un certain nombre d'endroits. Et plus que ça, je crois ce qui est très, très intéressant et qui pose question, c'est que la stratégie est sans doute bonne, mais elle est difficile à mettre en œuvre et on l'éprouve chaque jour davantage. La stratégie, compte tenu du territoire extrêmement vaste, c'est
Il faut
stratégie...
rappeler que la force Barkhane, ce sont 4500 soldats sur un territoire qui est 5 fois plus grand que la France.
Exactement. Et donc la stratégie, c'est une stratégie par zone. On dit, la force Barkhane intervient dans une zone, elle prend une zone, elle la stabilise et elle essaye de faire revenir l'État l'État malien, sur ce territoire, c'est-à-dire un maire, c'est-à-dire des militaires, des policiers, des enseignants. Et on voit à quel point c'est difficile. Et de manière très, très symbolique, il y a eu, avant le drame de cette semaine, il y a eu un autre drame qui est passé inaperçu, qui est le symbole de la difficulté, c'est la garnison d'Indeliman, qui était au cœur de ce territoire dans lequel 49 soldats maliens, au début du mois de novembre, ont été massacrés. Et donc, je crois que la question, elle se pose, parce que la stratégie est difficile à mettre en œuvre, parce que le bilan est mitigé. Mais si je dis d'une phrase ma position, je pense que il faut y rester, parce que ce qui s'y joue, c'est à la fois la lutte contre le terrorisme, l'influence de la France et même l'intérêt de la France.
Et qu'est-ce que ça dit aussi du rapport des Français à leur armée? Parce que le général Lecointre, et c'était assez frappant de l'entendre à l'antenne d'Inter, se demandait si les Français n'étaient pas finalement trop distants, voire indifférents par rapport à leurs troupes et notamment celles qui sont engagées sur des théâtres d'opérations extérieures.
Alors, il y a un premier problème, me semble-t-il, qui est la question de savoir si les Français peuvent réellement s'approprier, j'allais dire, des opérations qui sont sur des théâtres extérieurs. C'est-à-dire que, est-ce qu'ils en comprennent eux aussi l'objectif? Est-ce qu'ils sont convaincus de la nécessité? Ça, rien n'est moins sûr. Et c'est d'autant moins sûr que là où j'apporterais une nuance à ce que disait Gilles tout à l'heure, quand il disait il faut réhabiliter François Hollande et la Ve République, c'est que s'il a été nécessaire d'aller au Mali, et encore, il y avait débat pour savoir si vraiment c'était nécessaire. Là aussi, je peux entendre qu'on puisse en discuter, mais surtout, c'était la conséquence directe d'une intervention absolument tragique et désastreuse en Libye, qui a disséminé les armes qui étaient celles du régime libyen, qui sont allées servir tout le Sahel, et c'est cela qui a provoqué la catastrophe. Donc, je pense que nous payons en fait une série de mauvaises décisions, de mauvaises gestions et de déstabilisation. Maintenant, nous y sommes et je pense en effet qu'il faut tout simplement rappeler le sens que cela peut avoir et la façon dont on peut en sortir à travers non seulement une opération militaire, mais ensuite tout ce qui va avec. Une opération militaire ne se pense pas seule. Il y a un travail, en effet, de développement, un travail d'aide aux populations, d'indépendance des pays. C'est tout cela qui se joue. Les Français, vis-à-vis de leur armée, on sent très bien qu'il y a une émotion immense quand un accident de ce type arrive. Le problème est qu'il ne faudrait pas que l'armée porte seule l'idée de cohésion nationale, de devoir, d'engagement qui devrait se construire de façon diverse dans tout un pays.
Gilles.
Oui, le fait que l'intervention en Libye ait pu être à l'origine des difficultés, c'est probable, mais ça n'invalide pas la justesse du choix d'intervenir au Mali. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, je crois que ce qui est en jeu, c'est dans nos démocraties, qui sont souvent sur un temps plus court, qui sont souvent gouvernées par l'émotion, c'est la capacité d'assumer une stratégie de long terme. Et je pense que l'opinion est prête à soutenir une stratégie comme ça. Sachant que, évidemment, la question aujourd'hui n'est pas de savoir, je crois, s'il faut partir ou s'il faut rester. Je crois qu'il faut rester, mais il faudra bien partir. Et donc la question, c'est comment on fait pour que les autorités politiques maliennes soient en situation de prendre le relais. Ça reste la question qui est posée à la France et pas seulement à la France. La France n'est pas totalement seule puisque il y a d'autres pays européens avec nous parce qu'il y a aussi une mission de l'ONU, mais la France assume la majeure part du fardeau et ça serait, je crois, indispensable que d'autres viennent en soutien.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Utiliser des objets différemment, en les louant, les réparant, en les échangeant, en achetant aussi de seconde main. Bref, changer ce rapport à la consommation. Et l'objectif, c'est de lutter contre cette double arnaque pour la planète, pour le porte-monnaie des Français, qu'est le Black Friday, un vendredi noir.
Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire, elle critiquait donc le Black Friday, les ravages du consumérisme, cette arnaque. Au lendemain de cette journée symbole de la consommation de masse, une tradition importée des États-Unis et notamment aussi de la Grande-Bretagne, quel regard portez-vous sur ce qu'on appelle au fond en français des soldes ?
Natacha.
Oui, ça s'appelle des soldes, on peut peut-être le dire de cette façon, ça nous évitera d'importer une tradition qui n'a strictement rien à voir avec les pratiques qui sont les nôtres, dans la mesure où nous ne fêtons pas Thanksgiving, donc tout ça est assez particulier, et surtout, tout cela en fait est gênant, et parce que c'est le condensé de tout ce que nous sommes en train aujourd'hui de rejeter à titre collectif. On voit bien qu'il y a actuellement, et c'est tant mieux, une prise de conscience autour de la question de la préservation de l'environnement, autour de la question de savoir ce qu'est réellement le bonheur et si le bonheur relève de l'accumulation et de l'accumulation due à des pulsions. Or, qu'est-ce que c'est que ce Black Friday qui s'est imposé avec une rapidité absolument effarante, 3 ans, et maintenant vous ne pouvez pas entendre une publicité sans qu'elle évoque un Black Friday qui d'ailleurs n'a plus rien à voir avec une journée puisque maintenant ça dure une semaine. Donc tout cela devient aberrant et ne joue que sur les pulsions, c'est-à-dire sur tout ce qui nous empêche de réfléchir aux conséquences, à notre responsabilité en tant que consommateur et aux conséquences de nos actes.
C'est pas l'occasion de faire des affaires.
C'est le contraire. Non, c'est pas l'occasion de faire des affaires puisque en plus on
Gilles n'a pas l'air d'accord.
C'est une incitation à la dépense pour des objets dont on n'aurait pas forcément eu besoin et dans un cadre pulsionnel. C'est le contraire de tout le modèle de société qui visiblement est en train de surgir dans l'imaginaire de beaucoup de gens. Je trouve ça profondément dommage.
Gilles.
Oui, rapidité effarante, c'est vrai. Le Black Friday est importé en France en 2013. Via des sites internet, c'est important de le souligner, et en l'espace de quelques années, ça s'est imposé partout. 95% des Français connaissent Black Friday, selon une enquête qui a été publiée cette semaine. En revanche, nuance quand même par rapport à ce que disait Natacha, avec lequel je suis en partie d'accord, mais en partie seulement. C'est aussi, il faut quand même regarder la réalité, un rendez-vous important, positif pour beaucoup de consommateurs, et pas seulement, contrairement à ce qu'on dit, pour ceux qui ont les revenus les plus modestes. Là aussi, même enquête, 75% des Français qui disent c'est une bonne chose, 62% qui disent j'ai l'intention de réaliser des achats, et par rapport à cette idée que c'est une pulsion, c'est souvent préparé, c'est-à-dire qu'ils vont repérer pour beaucoup d'entre eux avant, et ils le font en fonction notamment des achats qu'ils veulent réaliser à Noël.
Donc là, vous parlez de vous.
Alors, je n'ai pas repéré, je n'ai pas acheté, mais je vais peut-être le faire. C'est important donc pour les consommateurs, c'est important aussi pour beaucoup de magasins dans lesquels le mois de décembre est le mois dans lequel se joue l'année et dans lequel la journée du Black Friday est une de ces journées dans lesquelles se joue le mois. Donc, il y a aussi cette réalité-là. Maintenant, il n'en demeure pas moins que c'est le symbole d'une surconsommation, d'une frénésie consommatrice. C'est vrai en France, c'est vrai davantage encore en Chine. Le Black Friday, son équivalent, est un peu plus tôt dans l'année, organisé notamment par le site Alibaba. En l'espace de 24 heures, c'est 25 milliards d'euros qui ont été dépensés. Donc là, on est vraiment dans la frénésie consommatrice.
Mais vous comprenez donc ceux qui veulent en profiter.
Évidemment que je comprends ceux qui veulent en profiter, tout ça posant malgré tout, et je rejoins Natacha quand même sur ce point-là, la question de notre modèle de consommation. Mais le problème, ce n'est pas Black Friday, le problème c'est notre modèle de consommation.
Natacha ?
Oui, c'est bien sûr notre modèle de consommation, mais un modèle de consommation qui est appuyé sur l'idée du low cost et du fait qu'il faudrait absolument acheter au prix le plus bas. Le plus possible. Or, tout l'enjeu des années à venir, tout l'enjeu des années à venir va être au contraire de construire un mode de consommation qui soit celui du juste prix, c'est-à-dire du prix qui répond à une qualité, qui répond à une aspiration de longévité, de mode de production qui fait du bien à la fois à la planète, au pays. C'est tout cela qui va devoir être mis en œuvre. Pourquoi ? Parce que cette stratégie de long terme est bénéfique à l'ensemble de la population.
Mais ça m'étonne parce que c'est la couverture de Marianne cette semaine. Pourquoi augmenter les salaires ? C'est donc un dossier qui est consacré au pouvoir d'achat. Voilà une manière, en l'occurrence,
de permettre à des consommateurs de réaliser des achats.
Justement non, Ali, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que là, quand vous parlez pouvoir d'achat, vous avez l'air que de considérer que la question, c'est celle de ce qui sort de la poche du consommateur. Et donc, il faudrait qu'il paye moins cher les produits. De même, d'ailleurs, qu'on s'était focalisé, c'est vrai, à juste titre, l'année dernière avec les Gilets jaunes, sur la question des taxes, des impôts, de ce qui sortait de leur poche. Et nous, justement, nous renversons la logique en disant le premier problème, c'est ce qui rentre dans la poche des citoyens. Et la question de savoir quels sont les métiers qui sont correctement rémunérés en fonction de leur utilité sociale, quels sont ceux qui relèvent d'une logique de marché où on peut, tout simplement, dans des métiers en tension, recruter parce qu'on paye correctement les gens.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
On a un problème avec les COP aujourd'hui. Ça fait 25 ans qu'on n'est pas efficace pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est peut-être l'opportunité de repenser ces sommets climat pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces, qu'ils apparaissent beaucoup moins hors sol et qui, de fait, ils donnent enfin des résultats tangibles et pas simplement un show pour dirigeants en mal de réputation écologique.
C'était l'eurodéputé Europe Écologie Les Verts Yannick Jadot sur l'antenne de France Inter, quelques jours donc avant la COP25 sur le climat qui se tiendra en Espagne à partir de lundi. Pourquoi vouliez-vous revenir sur ce rendez-vous qui est maintenant régulier, Gilles ?
Parce que c'est, je crois, chaque COP est l'occasion de faire le point sur l'évolution du savoir. Où en est-on réellement ? Et si on essaye de résumer à l'aube de cette COP25 où on en est, ce qui est clair, c'est que, un, la situation s'aggrave, c'est-à-dire que l'objectif de 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne par rapport à l'ère pré-industrielle, qui était l'objectif pour 2100, il est maintenant acquis qu'il sera atteint dès 2050, peut-être même voire vers 2030, et qu'une augmentation de 3 degrés est maintenant plausible, même si les engagements sont tenus. Donc, un, la situation s'aggrave. Deux, on sait de plus en plus que les conséquences en seront dramatiques. Il y a aux alentours d'un milliard de femmes et d'hommes qui vont être touchés dans les zones côtières par la montée des océans et aux alentours d'un million d'espèces végétales et animales qui risquent de disparaître. Et
mais c'est dans les grandes réunions comme les COP que se joue la lutte contre le réchauffement climatique.
Et que donc, face
vous avez
à tout
entendu
ça,
Yannick Jadot,
l'inaction
il parle 2000... de chaud pour dirigeants en mal de réputation écologique.
Même si
écologique.
Je ne pense pas que le problème soit, on n'est pas un problème avec les COP, on a un problème avec l'absence de mise en œuvre de ce qui est décidé dans les COP et notamment dans la COP21, puisque quand on fait maintenant, on va faire l'année prochaine le bilan, 5 ans après la COP, c'est le vrai rendez-vous. Il n'est pas à Madrid cette année, il est l'année prochaine pour la COP26. Mais ce que l'on constate, c'est que les objectifs qui étaient fixés, c'est-à-dire qu'il y ait une réduction importante, c'était plus de 7% par an des émissions de CO2 dès 2020, qu'on continue à être en augmentation. Et donc il y a un problème de mise en œuvre, mais pas un problème de COP. La COP demeure un moment qui est un moment déterminant.
Natacha Polony.
Mais vous voyez tout le paradoxe qu'il y a à parler de, en effet, d'un grand raout où on va mettre en avant des bonnes intentions après avoir parlé du Black Friday, c'est-à-dire en fait de l'idée que nous sommes réduits, nous citoyens, au rôle de consommateurs pour faire marcher une machine économique qui est devenue totalement folle. C'est-à-dire que, bien entendu, que les enjeux sont essentiels, et là où Gilles a raison, c'est sur la dimension scientifique. La possibilité de se réunir pour faire un point et se mettre d'accord, tout simplement dans un consensus, autour de ce qui est en train de se passer et dont on voit en effet que on ne mesure même pas à quel point les effets se conjuguent et deviennent exponentiels. Mais pour autant, c'est la logique même d'un système économique fondé sur la division mondiale du travail, sur la consommation-production, qui est aujourd'hui à remettre en cause. C'est-à-dire qu'il va falloir, à un moment donné, prendre conscience qu'il va falloir fâcher des gens. Or, le principe de ces COP, c'est qu'on ne fâche personne. Ou en tout cas, on ne fâche surtout pas les grands intérêts économiques qui sont aujourd'hui représentés par des multinationales déterritorialisées, dont le travail de lobbying nous impose un système qui est totalement dingue. Donc cette COP va encore être, comme la COP21, une série de textes avec du conditionnel, il faudrait que, ce serait bien. Et petit à petit, on nettoie toutes les obligations, on évite surtout de se poser la question de la façon dont on peut, dans chaque pays, changer le système en modifiant les modes de consommation, en n'exportant pas notre pollution comme nous le faisons actuellement. C'est tout cela qui devrait être mis en œuvre, je crains que ça ne le soit pas.
Encore un mot, Gilles, avant de passer au débat.
Une COP, c'est pas un grand raout, et c'est pas se mettre d'accord sur la science. Ça, c'est le GIEC qui fait ça. Une COP, c'est le rendez-vous des principaux dirigeants de tous les pays du monde pour se mettre d'accord sur des objectifs et sur une action. Et ces objectifs, ils peuvent être des problèmes, des remises en cause de ce que nous, de la manière dont nous produisons et de la manière dont nous consommons les uns et les autres, pour peu qu'il soit mis en œuvre. Et donc, le problème aujourd'hui, il est celui de la mise en œuvre. Ce qui change, c'est que la prise de conscience des individus, des citoyens, est vraiment un fait totalement, totalement nouveau, mais qu'il demeure, et c'est vrai pour les États comme pour les individus, un écart entre les actes et les mots, et donc il faut maintenant passer aux actes.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec le directeur de l'Institut Montaigne, Laurent Bigorgne.
France Inter. Le grand face-à-face, le débat.
De quoi le 5 décembre est-il le symbole ? Faut-il y voir d'abord une mobilisation contre la réforme des retraites, tout simplement, ou un front anti-Macron en train de se constituer ? Question de méthode, de stratégie ou de justice sociale ? Certains y voient un mouvement catégoriel, ce sont notamment de nombreux membres de la majorité qui ont émis cette hypothèse. Des enjeux en débat aujourd'hui dans le grand face-à-face avec le directeur de l'Institut Montaigne, groupe de réflexion qui avait fourni quelques-unes des idées fortes du programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Il y a tout juste un an, l'Institut Montaigne passait au crible les premières réformes du quinquennat. Bonjour Laurent Bigorgne.
Bonjour.
Et bienvenue. C'était il y a pile un an, vous analysiez de manière très fine avec une trentaine de chercheurs les premières réformes du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous faites aussi des enquêtes d'opinion assez régulières sur la manière dont les Français perçoivent justement ces grandes réformes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? La dernière en date sur votre site internet date du 7 novembre, est-ce que vous savez si l'opinion a évolué concernant la réforme des retraites ou pas ?
Oui, c'était une enquête faite avec ELAB, l'Institut, et ils ont republié cette semaine à peu près les mêmes questions. On voit, je crois que ça s'est fait en milieu de semaine, on voit aujourd'hui l'opinion évoluer sur le soutien au futur mouvement de grève, parce que vous décrivez un paysage qui n'est que virtuel pour le moment.
Oui, on fait de la futurologie.
On ne sait pas ce qui va se passer le 5 et il est très difficile de l'interpréter sans l'avoir vu. On peut formuler des hypothèses, j'imagine que c'est ce qu'on va faire. En tout cas, il y a une diminution assez forte, de 11 points je crois, de l'enquête du 7 novembre à celle de cette semaine, dans le soutien apporté à ce mouvement, qu'on peut interpréter de deux façons. Les uns très optimistes vous diront très pro-gouvernementaux, ben, au fond la pédagogie passe, les autres vous diront qu'il y a une peur, pardon de cette expression un peu triviale, du bordel, et qu'en réalité l'opinion ne veut pas de ce chaos annoncé.
Quelle est votre interprétation, Laurent Bigorgne ?
Plutôt la seconde, je pense que si vous voulez, la pédagogie sur une réforme aussi difficile que la réforme systémique, on peut pas imaginer qu'elle ait progressé en 10 jours, et je pense qu'il va encore falloir beaucoup de temps.
Même s'il y a eu une intervention du Premier ministre cette semaine pour clarifier les choses, puisque beaucoup attendaient de la clarté sur ce projet de réforme, ça n'a pas suffi.
On a, nous, énormément dans le passé, il y a 10 ans à l'Institut Montaigne, regardé cette question de ce qu'on appelle la réforme, avec un grand mot, systémique. C'est-à-dire celle qui nous fait changer de système. Elle s'est faite en Suède. Elle s'est pas faite dans beaucoup de pays dans le monde, cette réforme. La deuxième chose, c'est que, et ça s'est mal vu dans la présidentielle, il y a des besoins s'agissant du système des retraites qui sont des besoins de financement. Je suis pas sûr qu'il soit très facile de marier, de faire tenir ensemble à la fois la pédagogie emportée par un passage systémique à un autre système, donc, et l'ici et maintenant qui consiste à dire attention, on a un problème de financement si on ne veut pas faire de l'inéquité entre générations. Et moi, j'ai une préférence certaine, que l'Institut d'ailleurs exprimée, pour qu'on traite d'abord la question de l'ici et du maintenant, c'est-à-dire la question de l'équité entre générations, sachant que ce qu'on appelle donc ces réformes paramétriques qui font bouger les curseurs.
Remettre le système actuel à l'équilibre.
Exactement, on peut jouer sur 3 grands paramètres. Ça a plutôt marché jusqu'à maintenant. Ça s'est jamais fait dans la facilité, mais ça a plutôt marché. Et ça a d'ailleurs permis de faire converger, bon en magant, un certain nombre de régimes. Pas tous. Mais il y avait quelque chose de très pragmatique et au fond de moins confrontationnel et peut-être de plus simple à réaliser. Surtout quand vous entendez faire cette réforme à mi-quinquennat.
Natacha.
Alors, il y a une première remarque, c'est sur la façon dont le gouvernement présente cette réforme, ou plutôt la façon dont il ne la présente pas. C'est-à-dire que on a vu des errances absolument effarantes, des oppositions même sur les choix qui étaient à opérer. Et je pense que ça crée tout simplement de l'inquiétude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un Français qui peut exactement se projeter, savoir quelle sera sa retraite avec une réforme proposée par ce gouvernement. Je pense que c'est le premier point qui pose problème. Le deuxième point qui pose problème, c'est que pour qu'une réforme soit acceptée, il faut qu'elle aille évidemment dans le sens de la justice sociale et qu'elle s'inscrive dans un horizon plus vaste. Une vision de la société, de ses grands équilibres, de ce vers quoi on veut amener le pays. Et ça, ça n'est pas présent. Et c'est pour ça que autour de cette question de la réforme des retraites, dont on sait pourtant que, a priori, une majorité de Français trouve qu'il faut qu'il y ait cette réforme, eh bien, ça crée de l'inquiétude, ça crée de la colère, et personne ne peut dire comment va se passer ce mouvement et s'il va y avoir, en effet, une agrégation de colère. Le problème est que, quelle que soit la façon dont ça va se manifester là, ça révèle des choses beaucoup plus profondes et beaucoup plus problématiques qui ressurgiront à un moment donné.
Laurent Bigorgne.
Oui, je crois que Natacha Pogny a raison d'insister sur le fait que réformer le système de retraite, c'est pas une réforme technique. Et c'est vrai qu'on est en train d'emmêler, si j'ose dire, énormément par le prisme du technique sur cette réforme. C'est un choix de société. Oui. C'est un choix sur que devient un pays qui vieillit. Comment on assure le contrat social entre les vieilles générations et les jeunes générations? Comment on permet que les actifs soient, j'allais dire, bien sûr que les efforts qu'ils commettent, les efforts qu'ils font au quotidien, vont aussi leur profiter. Et toutes ces dimensions-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles ont disparu du projet, au sens où on vient buter contre l'habituel, j'allais dire, point dur de toute réforme des retraites, c'est la question de ce qu'on appelle les régimes spéciaux. Et là où je pourrais, au fond, m'inscrire un peu en critique de l'action du gouvernement sur cette réforme des retraites, c'est que je suis convaincu, pour ma part, que sans avoir réformé les entreprises à régime spécial préalablement, sans avoir traité la question de la place de la fonction publique dans ce pays, on n'a pas un carburant, ni nécessairement l'énergie, ni le bon point de départ pour faire une réforme systémique, parce qu'on demande à la réforme des retraites d'avoir le courage de faire des choses qu'on n'a pas eu le courage de faire, c'est-à-dire réformer le système public dans son ensemble.
Gilles Finkelstein.
Bon, le point de départ, c'est ce que disait Natacha Pogny, c'est-à-dire que, y compris le système actuel, est critiqué, mis en cause par les Français qui le considèrent dans des proportions qui m'ont surpris, à la fois injuste, très complexe, très illisible et peu durable.
Notre système est rejeté.
Notre système actuel. C'est ce qui est d'autant plus une surprise que les réformes qui ont été engagées depuis 30 ans par les différents gouvernements fait que la durabilité du système est plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ans. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, la construction intellectuelle autour du système d'une retraite par points est séduisante parce que c'est plus adapté à une société mobile et ça rétablit une plus grande équité à l'intérieur d'une génération. Maintenant, moi, ce qui me frappe, c'est que le gouvernement est de plus en plus dans une impasse, pas seulement parce qu'il y a une inquiétude sur les modalités qui sont floues, c'est vrai, mais parce que davantage encore, il y a une ambiguïté sur les objectifs. Pour quelles raisons le gouvernement engage-t-il cette réforme qui est une réforme majeure, une réforme systémique? On ne le sait toujours pas après 2 ans. Est-ce que c'est pour des raisons...
Il a répondu très simplement,
pas
le Premier ministre, en disant c'est un système universel et équitable qu'on veut mettre en place.
C'est là où est l'ambiguïté. Est-ce que l'objectif de cette réforme est l'équité, et notamment l'équité intragénérationnelle? Est-ce que c'est un système plus mobile? C'est ce qui avait été présenté pendant la campagne présidentielle, ou est-ce que l'objectif de cette réforme est un objectif financier? Cette ambiguïté-là qui plane depuis le début, elle est en train de pourrir l'ensemble du débat, d'autant que j'ajoute ce dernier point, la question du calendrier est très importante. Le gouvernement a raison engagé une vaste concertation avec Jean-Paul Delevoye. Je crois qu'à l'été dernier, il a fait une erreur en voulant être trop malin et en retardant au-delà des élections municipales les annonces. Il est maintenant obligé d'anticiper parce que ce temps là a été perçue comme une entourloupe en disant il y a anguille sous roche, c'est parce que.
Alors, laissez Laurent Bigard de vous répondre.
Eh ben oui.
Alors, moi, je réponds pas pour le gouvernement, hein, vous en doutez. D'autant que je suis assez, encore une fois, critique du calendrier qui a été choisi. Encore une fois, je pense que quand vous entendez réformer un système de retraite, il faut avoir en tête que l'exemple suédois, c'est une durée de 10 ans de réforme. Et une alternance politique au milieu. Est-ce que c'est vraiment la culture de notre pays, la culture politique de notre pays? J'en suis pas certain. Ma conviction, elle rejoint quand même celle de Jim Finkelstein. C'est-à-dire, je suis à peu près convaincu que pour réformer, j'allais dire, les retraites, il faut le faire sans entourloupe et en toute transparence. Et on est en train de faire porter à cette réforme à la fois le poids d'un ajustement financier, puisqu'il va falloir faire du paramétrique en même temps qu'on fait du systémique, et ça, tout le monde sait que c'est extraordinairement compliqué, la question des statuts, à la fois le statut de la fonction publique et potentiellement des entreprises à statut, et puis on explique qu'au fond, on va aussi recaler un certain nombre de choses qui relèvent de la différence entre les régimes dits privés et le régime des fonctionnaires. Vous ne pouvez pas demander à une réforme d'être un cheval de Troie. Et là, ce n'est plus un cheval, c'est un haras de Troie. Il y a trop d'objets cachés, et je pense que il vaut mieux faire les choses dans l'ordre.
Des objets cachés.
Oui, il y a des objets cachés parce que.
Pour que tout le monde comprenne, pour vous, la réforme des retraites a été pas forcément prioritaire. Il aurait d'abord fallu commencer par une réforme de la fonction publique. C'est un sujet que vous connaissez bien.
De la sphère publique dans son ensemble, y compris parce qu'on a des fonctionnaires qui sont malheureux aujourd'hui. Le paradoxe que soulève Jim Finkelstein, il est essentiel. On dépense 13,8% du produit intérieur brut, du PIB, pour les retraités en France. Et malgré tout, les gens sont pas satisfaits. Qu'un gâchis.
Natacha.
Oui, je pense en effet qu'on a un problème beaucoup plus vaste que simplement la réforme des retraites. Le poids des retraites dans la dépense publique, qui est lié aussi, ça fait plusieurs fois que je le dis ici, mais c'est absolument majeur, qui est lié aussi au chômage de masse, à la désindustrialisation, au fait qu'il n'y a plus assez de cotisants par rapport à ceux qui doivent aujourd'hui recevoir des pensions. C'est tout ce système-là qu'il faut penser en même temps. Et je pense que c'est pour ça que ce mouvement du 5 décembre est difficile à appréhender. En effet, c'est pas juste sur la réforme des retraites. Un seul exemple, la question en effet de la fonction publique, et en particulier des professeurs. Les professeurs français sont payés deux fois moins que les professeurs allemands. D'abord, en termes de messages envoyés à la nation, c'est absolument tragique. Les infirmiers aussi sont très mal payés en France. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en gros, les métiers qui ont une grosse utilité sociale sont méprisés dans notre pays. Or, la conséquence, elle est que ces professeurs très mal payés auront une très mauvaise retraite. La façon de faire aujourd'hui qui consiste à avoir retardé cette question du salaire enseignant, ça fait deux ans que Jean-Michel Blanquer explique, oui, j'y réfléchis, et puis c'est l'horizon, c'est-à-dire que ça recule au fur et à mesure qu'on avance. Pourquoi faire cela et se retrouver aujourd'hui au pied du mur dans cette situation-là?
J'ai juste une phrase pour compléter ce que dit Natacha Pollini. Il y a un problème majeur pour les enseignants par rapport à cette réforme des retraites, mais qui ne tient pas seulement au fait qu'ils sont moins bien payés qu'ailleurs, qui tient au fait qu'ils n'ont pas de primes, et que donc, par rapport, y compris au reste de la fonction publique, il risque d'être encore plus défavorisé. Donc parmi les points durs, il n'y a pas seulement les régimes spéciaux, et d'ailleurs il n'y a pas que les régimes spéciaux qui appellent à la grève et qui vont être dans la rue le 5, il y a aussi la question de la fonction publique en général, et celle des enseignants en particulier.
Laurent Bigorgne.
Oui, mais on touche un point dur. La question, effectivement, de savoir comment est-ce qu'on pilote, comment est-ce qu'on rend attractive une fonction publique de 5,5 millions de fonctionnaires. Et comment est-ce qu'on rend possible, comme le dit Natacha Pollini, comment on rend possible l'attractivité de ces métiers? Je vous rappelle que les statistiques viennent de tomber sur les présentations au concours d'enseignants du second degré. Ces statistiques sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'il y a une attractivité qui baisse, le métier est difficile.
Le nombre de candidats s'effondre.
Bien sûr. Donc, tout ne tient pas à la réforme des retraites, ça va sans dire. Et par ailleurs, beaucoup est fait, notamment dans le premier degré, sur la question et du dédoublement et d'un régime de primes sur des territoires où personne n'a envie d'aller aujourd'hui. Et je pense qu'il faut évidemment accepter de casser ces tabous. Mais je suis convaincu, encore une fois, que le travail de ce premier quinquennat eût dû être celui d'une refonte, en réalité, de la sphère publique, d'une réévaluation d'un certain nombre de situations, de l'acceptation aussi de briser un certain nombre de tabous, ceux dont on parle. Parce que les syndicats de la fonction publique adorent jouer d'abord les augmentations du nombre de fonctionnaires, puis ensuite viennent parler de la fiche de paye. Ça marche pas. Il faut parler des gains de productivité et de savoir comment ensuite on les redistribue. Et on l'a pas fait, et on entre donc dans une phase
de réforme. Quand vous parlez de gains de productivité, ça veut dire qu'il faudrait moins de fonctionnaires, mais qu'ils soient mieux payés.
Oui. Bien sûr qu'il y a quantité de missions dont on peut revoir aujourd'hui le périmètre et la façon de les réaliser. Il y a des endroits qu'il faut sacraliser. Je pense à l'université, je pense évidemment à l'enseignement, aux professions de santé, aux professions de justice. Mais il y a quantité de choses, notamment dans le bloc des collectivités locales, qu'on doit et qu'on peut revoir.
Oui, Natacha, j'ai une question ensuite. J'aimerais avoir votre réponse à tous les trois.
La difficulté, c'est que du coup, ça nécessite de poser des problèmes en même temps, et que c'est ça qui n'est jamais fait. C'est-à-dire que pour revoir le périmètre de l'État, il faut aussi réfléchir à la logique même qui est la nôtre, qui est une logique d'inflation administrative, d'inflation de normes, qui rend nécessaire des postes parce que la norme crée le besoin de contrôler. On est dans une société hyper... une société du reporting qui freine totalement l'efficacité et qui, en plus... empêche les missions de l'État d'être faites correctement. Donc il y a aussi cette dimension-là qui n'est jamais posée.
Mais si l'État ne prend pas en compte toutes ces différentes questions, tous ces enjeux, en revanche, ceux qui vont se mobiliser ou ceux qui appellent à la mobilisation le 5 décembre, eux en ont conscience, puisqu'en plus de ceux qui travaillent dans les transports publics, à la SNCF, à la RATP, il y a donc les fonctionnaires, comme le disait Gilles, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la société qui permet de comprendre ce qu'il y a de caché dans le cheval de Troie ou dans le haras de Troie dont vous parliez, Laurent Bigorne.
Ce qui est frappant, je me disais, on ne peut pas faire de futurologie sur ce qui se passera dans une semaine, mais ce qui est quand même très très frappant, c'est que c'est pas le secteur privé qui se mobilise autour du 5. C'est absolument pas le secteur privé, et vous verrez que dans les entreprises privées, les petites, les moyennes, les grandes et les très grandes, il se passera rien.
Il faut dire que c'est rare en France.
Comment ?
Qu'il y ait des mobilisations dans
le
secteur privé.
Oui, bien sûr, mais ça dit aussi une chose aujourd'hui du jeu de faux-semblants, du jeu syndical, qui est un jeu en décalage par rapport à ce qu'est la société. C'est-à-dire, la population active, majoritairement dans ce pays, ne sera pas en situation d'être gréviste ou d'être manifestante que 5 décembre.
Mais on pourrait vous répondre, comme en 95, que certains feront grève par procuration.
Oui, enfin, sans aucune preuve empirique pour me démontrer.
Natacha.
Oui, à ceci près que c'est pas parce que les gens ne peuvent pas faire grève qu'il n'y a pas une colère absolument majeure dans le pays. Il suffit d'aller se promener, de discuter avec les gens pour sentir qu'il y a une exaspération qui est même profondément inquiétante. C'est-à-dire que les gens qui aujourd'hui même considèrent qu'ils vont être enquiquinés par cette grève, que ça va leur donner des difficultés, sont dans un état de tension parce qu'ils ne voient pas où on veut les mener, parce que ils sont pour beaucoup restés sur la queue de comète de ce mouvement des Gilets jaunes qui, pour le coup, était un mouvement où on a vu le privé, les salariés du privé se mobiliser et tout à coup surgir, ce qui était rarissime.
Mais il n'y a rien de commun entre ces deux mouvements, entre le mouvement des Gilets jaunes et ce qui se profile le 5 décembre.
Le rien de commun, attention. C'est-à-dire, c'est très différent dans la mesure où, en effet, là, vous avez un mouvement qui est classique, c'est-à-dire appelé par des syndicats, avec un encadrement politique. On est dans quelque chose, même si on n'en mesure pas l'ampleur, qui est très traditionnel. Les Gilets jaunes, c'était totalement autre chose. En revanche, on est un an après un mouvement qui a fait surgir ce qui couvait et qui était une colère absolument énorme. Et vous avez des gens qui sont ressortis de ce mouvement plus en colère qu'ils n'y étaient rentrés. Ça, c'est toujours là.
Laurent Bigorne.
Oui, ce que vient de dire Natacha va un peu à l'encontre de ce que Gilles nous a expliqué tout à l'heure sur la perception, effectivement, du système des retraites. On est sur quelque chose, me semble-t-il, d'assez classique. Vous l'avez redit, Natacha, c'est-à-dire qu'on est véritablement sur le bloc, la sphère publique, à la fois État, collectivité et puis entreprise publique, qui nous explique qu'elle ne veut pas changer. Bon. Ça, l'histoire est classique, et à chaque réforme des retraites, y compris paramétrique, c'est comme ça que ça s'est passé. Manifestement, il y a d'autre côté, du côté des indépendants, du côté du privé, une peur assez forte, c'est de payer la note le moment venu d'une réforme qui pourrait se faire sur leur dos parce qu'il faudrait ménager la sphère publique. C'est appelons un chat un chat. C'est aussi comme ça que les choses et les arbitrages sont ressentis et perçus. Moi, je maintiens.
C'est comme ça qu'ils sont faits.
Comment ? Ben, c'est comme ça que ça risque d'aboutir. Évidemment. C'est-à-dire que les plus vocaux, les plus coalisés, c'est évidemment les fonctionnaires et les entreprises publiques. C'est normal. Et d'ailleurs, c'est pas un procès que je leur fais. C'est normal. Le système fonctionne comme ça.
Attendez, c'est pas seulement ça. La peur qui se manifeste, c'est aussi la question de se dire, mais si on nous vend une retraite par point, nous n'avons aucune garantie de ce que sera le point. Ça donne une incertitude absolue. C'est pas seulement une lutte privée contre public. C'est aussi l'impression d'être dans un univers incertain.
Vous théorisez beaucoup les choses parce que, en réalité, des systèmes à point, il y en a déjà sur les régimes complémentaires, et ça fonctionne. Et par ailleurs, on sait assez bien les ajuster. Donc, c'est pas non plus un saut quantique. ça s'est fait dans un autre pays, et il se trouve que sur une partie des régimes, ça se fait en France. Donc je suis pas sûr que l'indétermination soit grave. Là où je vous donne raison, Natacha, c'est que j'aurais bien aimé, moi, voir l'État aller assez loin dans son effort d'élaboration et de présentation des choses, pourquoi pas à travers des outils permettant aux gens de, par proxy, de voir à peu près où ils se situeraient à l'avenir. Il y aura
exemple sur Internet qu'on puisse savoir, qu'on puisse simuler, qu'on puisse imaginer.
Il y a des règles d'indexation, des choses comme ça. Regardez pourquoi quand une grande entreprise négocie avec l'État, elle arrive à obtenir des garanties absolument majeures pour que, en cas de changement des politiques publiques, en cas de changement de l'environnement, elle puisse quand même avoir son gain. Ça, des grandes entreprises, elles y arrivent toujours. En revanche, là, le citoyen, on lui dit bah écoutez, il y aura ce point, mais on ne vous garantit pas parce que ça va varier en fonction de la démographie, ce qui est tout à fait légitime. Ça va varier en fonction des salaires, et là ça devient plus compliqué, de l'inflation, et là encore il faudrait quelques garanties. Or ça, on ne les donne pas aux citoyens.
Gilles Finkelstein.
Oui, évidemment c'est difficile d'interpréter un mouvement qui n'a pas eu lieu, et donc il faut être plus que prudent.
Oui, mais il y a des signes, notamment au gouvernement, d'une très grande inquiétude face à ce qu'on appelle le mur du 5 décembre.
Absolument.
Et il y a un espoir du côté des syndicats et de ceux qui se mobilisent qu'ils pourront changer l'histoire.
Mon intuition, c'est que c'est évidemment un mouvement des régimes spéciaux, et notamment des régimes spéciaux de la RATP et la SNCF. Mais que ce n'est pas seulement cela. Que c'est un mouvement de l'ensemble des régimes spéciaux, d'ailleurs y compris des avocats qui défendent leur propre régime, mais que ce n'est pas que cela. Que c'est un mouvement de plus en plus contre la réforme des retraites à cause des ambiguïtés et des flous que l'on a vus, mais que ce n'est pas que cela. Que c'est un mouvement contre l'injustice de la politique gouvernementale, sans doute pour partie, mais encore une fois que ce n'est pas que cela, que c'est quelque chose de plus vaste que l'on sent monter depuis plusieurs mois. Je ne sais pas, ce n'est évidemment pas le même épicentre de tremblement de terre que celui des Gilets jaunes de l'année dernière, mais ça a aussi une dimension de réplique de ce qui s'est passé, parce qu'il y a le même cri d'angoisse et d'inquiétude par rapport aux évolutions.
Même si ce ne sont pas les mêmes populations, que les mots d'ordre ne sont pas les mêmes, et qu'on voit justement revenir les corps intermédiaires, notamment les syndicats, Laurent Bigorne.
Oui, il y a une revanche des syndicats dans cette affaire, c'est évident. On a même vu dans l'attitude de la CFDT, et il y a des tensions internes qui sont propres aux appareils syndicaux, qui, il faut bien le dire aussi, du point de vue du syndicalisme, ne vont pas très bien. Il y a de moins en moins de militants, on se raccroche à des mots d'ordre. On est sur une base sociologique de plus en plus étroite, qui est celle des fonctions publiques ou des entreprises publiques.
Mais ils sont encore capables de bloquer les transports, notamment à travers la SNCF et la RATP, et pour le coup, porter des coups durs à l'économie qui font qu'un gouvernement est contraint de céder. Dans le rapport de force, ils n'ont peut-être pas perdu la bataille d'avance.
Oui, mais encore une fois, il faut ensuite avoir, comme vous disiez, Natacha Teur, quelle est la vision? Moi, je n'ai pas cette vision qu'a Natacha des grandes entreprises qui feraient la politique de ce pays et qui seraient systématiquement gagnantes. Ce n'est pas du tout la vision que j'ai. C'est évidemment beaucoup plus, de mon point de vue, compliqué que ça. Ce qui importe, c'est que le gouvernement exprime une vision sur un certain nombre de choix de société. Et je pense que ce dont on souffre, c'est que ce quinquennat a été plutôt bien exécuté dans la partie qui avait été annoncée aux Français dans le programme, sauf que ça fait à peu près un an qu'il n'y a pas d'idées nouvelles et qu'il n'y a pas de vision de portée. Et qu'on ne voit pas qu'il y ait un projet de société.
Mais là, c'était une promesse de campagne du candidat.
Bien sûr, mais qui n'a pas été réarticulée. D'abord, cette promesse de campagne, elle a été faite sur des hypothèses économiques qui n'étaient pas les bonnes. Et on a révélé à peu près dès l'automne 2017. On a vu que le point de départ du raisonnement du président, qui consistait à dire il n'y aura pas de problème de financement dans les années à venir, était un point de départ, un prémisse qui était faux. D'abord. Deuxièmement, il n'y a pas une réarticulation, une explicitation du projet qui était porté autour, au fond, d'un système qui est de la plomberie. C'est que vous soyez sur un système actuel ou un système demain qui est une réforme universelle, ça reste de la plomberie. C'est ce que disait Gilles tout à l'heure. Quelle est la finalité? Quelle est la vision? Quel contrat social je propose? C'est ça qui n'est pas dit aujourd'hui.
Mais vous souteniez le régime à points, justement, régime universel équitable ou pas?
Montaigne a travaillé dessus, et on a publié un papier avant la campagne présidentielle, bien avant, pour dire que, de notre point de vue, c'était peut-être le meilleur des mondes, mais que le meilleur des mondes n'existait pas.
Alors pourquoi? Une question
juste un mot sur
la... J'ai une question à laquelle je voudrais que vous répondiez.
D'un mot sur la revanche des syndicats. Sans doute, à la SNCF, y a-t-il une revanche des syndicats par rapport à une réforme de statut
vécu qui n'est pas passé. En revanche, dire que c'est une revanche de la CFDT, je trouve qu'à l'inverse, il y a une continuité de la CFDT dans ce dossier qui est un dossier difficile pour dire une réforme systémique, oui, une réforme paramétrique, non, une réforme des régimes spéciaux est possible dès lors qu'il y a une vraie négociation pour tout le monde sur la question de la pénibilité. Je trouve qu'il y a beaucoup de constance au contraire dans cette affaire.
Puisque vous êtes tous d'accord que la question des retraites est importante, elle concerne tout le monde, pourquoi ne pas la soumettre à référendum ? Laurent Bigorneau.
Parce que si vous voulez, la question est tellement complexe que soit vous entrez dans un référendum, on va poser 30 questions aux Français, ce sera totalement lisible, soit vous entrez dans un couloir de la mort avec une réponse qui ne sera pas interprétable. Les Français, si vous leur demandez demain...
Les Français ont voté sur un projet de constitution en 2005
qui n'était pas plus
simple. Folle.
D'accord, on a vu le résultat. Quelle serait la réponse ? Quelle serait la question ?
La question, ça c'est à vous de l'imaginer en l'occurrence dans votre groupe de réflexion.
Je pense que ça n'est pas imaginable en tant que tel parce que cette question est trop complexe.
Même si elle concerne tout le monde.
10, 15, 20 ou 30.
Référendum ou pas, Natacha ?
Non, je pense que ça ne se pose pas comme ça.
Mais bien sûr que si, ça se pose comme ça. Arrêtez, Natacha.
Encore une fois, la question est celle de l'inscription d'un projet comme celui-là dans une vision plus globale. Laurent Bigorne disait à l'instant que Emmanuel Macron avait plutôt bien réussi ce qui relevait de son programme.
Mais vous voulez un référendum sur ADP, vous n'en voulez pas sur les retraites.
J'ai pas dit que j'en voulais pas, j'ai dit que ça n'a pas de sens si on ne réfléchit pas de façon un peu plus large.
C'est-à-dire que
je pense moi j'en veux sur ADP. Mais parce que là justement la question elle est très simple et très claire.
La question des retraites concerne absolument tout le monde.
Une chose, Emmanuel Macron a appliqué une part de son programme. Or, il me semble que ce qui apparaît aujourd'hui, c'est justement que ce programme n'était pas adapté parce qu'il n'était pas du tout la révolution annoncée, mais la continuité des politiques qui ont toujours été menées et qu'il se retrouve aujourd'hui confronté à ce qui se passe un peu partout dans les pays développés, qui est le constat que le système néolibéral mis en place depuis 40 ans ne fonctionne pas, qu'il crée de la pauvreté, qu'il paupérise les classes moyennes et les classes populaires et que c'est en train de craquer de toutes parts. Je crois que c'est ça qui est en train de se jouer. C'est pour ça que ça se joue pas seulement autour de la réforme des retraites.
Laurent Bigorneau.
Oui. Moi, je me méfie toujours d'explications très simples.
C'est
simpliste, pardon. J'ai employé un mauvais mot.
C'est pas non plus simpliste.
Si, je vous garantis qu'on pourrait, si on organisait un débat un peu argumenté, trouver beaucoup plus de nuances et de complexité.
Nous avons l'espace pour le faire.
Si on organisait un débat plus argumenté, je pense que je pourrais vous expliquer que ce système est en train d'aller dans le mur.
Laissez-le répondre,
et que ça se voit. Oui, mais simpliste, non.
Ce qui me paraît très clair, c'est que, pour vous répondre d'un mot, le chômage dans ce pays est en train de baisser. C'est plutôt bien ou c'est plutôt pas bien ? C'est plutôt évidemment bien, vous l'avez dit vous-même, s'agissant de la réforme des retraites tout à l'heure. On a besoin que le chômage baisse. Le chômage est en train de baisser, de la confiance a été rendue aux investisseurs, aux entrepreneurs, à la population. Des réformes ont été prises sur comment est-ce qu'on, à la fois, sécurise davantage les salariés, ça c'est tout le compte professionnel de formation qui vient. Mais si, c'est des faits ça, c'est pas de l'idéologie, c'est des faits. Vous voyez ? C'est des faits, c'est des choses qui transforment la vie des gens.
Et je répondrai sur les faits.
Et on a à la fois... donner davantage de sécurité. On a investi comme jamais dans ce pays sur la formation professionnelle. Alors c'est toujours un truc que les élites regardent en disant « mais nous, la formation professionnelle, ça ne nous concerne pas. On a fait plein d'études en début de vie puisqu'on était en situation de le faire. » C'est évidemment pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de transformer le système de formation professionnelle. On donne donc bien de la sécurité et en même temps, on a flexibilisé certaines situations pour permettre une plus grande fluidité du marché du travail. Vous allez dire, tout ce vocabulaire, il est pompeux, technique, néolibéral. En réalité, ça fait baisser le chômage. Donc, je maintiens et je prétends qu'il y a quantité de mesures qui ont été prises, qui avaient d'ailleurs été présentées dans le détail aux Français, ce qui est toute la différence avec la réforme des retraites, qui était très nébuleuse. Il y a quantité de choses qui ont été présentées dans le détail, qui ont fonctionné, qui produisent un impact aujourd'hui dans la vie des gens. La réforme des retraites, je suis désolé, on parlait de la campagne tout à l'heure avec Gilles, elle a été esquissée d'une phrase. Moi, ça m'a fait assez peur, pour ne rien vous cacher, quand j'ai vu cette phrase surgir, on passera à un système à points. Encore une fois, nous, on avait regardé ce système et il y avait toute une complexité absolument inouïe dans ce système. Et je dois dire que si ce système, on avait encore une fois, en œuvre après une réforme assez importante du bloc public, j'aurais pu y adhérer. Là, je trouve que c'est extraordinairement dangereux. Et on en perd le sens et on perd le fil.
Gilles, référendum ou pas d'abord ?
Alors, je vais répondre à la question en partant de ce que vient de dire Laurent Bigorneau. Le mandat politique d'Emmanuel Macron à l'issue de l'élection présidentielle sur cette question-là était assez faible parce que, au-delà de dire il faut passer à un système par points et un principe qui, un euro cotisé, vaudra la même chose pour tous, ce que à peu près personne ne pouvait comprendre ce qu'il y avait derrière. Donc, mandat politique très faible, avec une réforme qui est une réforme de société majeure. Donc, cette question n'est pas une question absurde. Elle ne se pose pas aujourd'hui. Elle ne se posera même pas dans deux mois quand...
La question du référendum ?
Oui. Elle ne se posera même pas dans deux mois quand les grands principes de la réforme seront posés. Elle se posera une fois que profession par profession... les choses auront, on aboutira sur un système. Une fois qu'on aboutit à ce système-là, la question n'est pas absurde parce que on est au cœur du pacte social. Donc elle n'est pas absurde. Après, s'engager dans un référendum comme ça, il faut une grosse part d'audace et pas peut-être même une grande part d'inconscience.
Juste
d'un mot, Natacha.
Oui, d'un mot. On n'a pas le temps là d'aller au fond du débat, qui est un débat absolument majeur, qui est la question de savoir si on réduit l'analyse de ce qui est en train de se passer aujourd'hui à simplement des curseurs sur des réformes, ou si on rentre dans le constat que aujourd'hui, certes, on crée de l'emploi, mais on crée aussi de la précarité, on crée du travail pauvre à peu près partout dans les pays développés, et que on a un système qui est aujourd'hui en train d'appauvrir des territoires entiers et en train d'appauvrir les États qui n'ont plus de quoi entretenir leurs infrastructures, qui sont obligés de réduire les services publics. Tout ça est un constat. Ce sont des faits justement, et ces faits, ils s'expliquent par des mécaniques politique. Alors, on peut réduire ça d'une petite réforme par-ci, une petite réforme par-là, mais on évite le problème.
Oui. Enfin, à 57 points de PIB de dépenses publiques, on n'est pas dans un système néolibéral, Natacha. Mais ça, il faudra un jour avoir l'honnêteté intellectuelle de le dire.
Il faudra un jour avoir l'honnêteté intellectuelle de laisser d'écouter les gens
vous répondre là-dessus.
Oui, le néolibéralisme, c'est du délire. Intellectuellement, ça ne tient pas la route.
Ça veut dire que vous confondez libéralisme et néolibéralisme, pardon, mais il y a un moment, il va falloir réexpliquer.
Pardon d'être un mauvais élève.
En l'occurrence,
sur la réforme des retraites,
oui.
Ma préférence, j'allais dire, c'est ma préférence de citoyen, et je me permets aussi de l'exprimer, c'est que quand je vois ma fille de 18 ans aujourd'hui, j'ai envie de lui dire, si je travaille pas jusqu'à 67 ans, parce que justement je n'ai pas un métier pénible, je vais te voler. Je vais te voler toi et tes enfants.
Je vais te voler.
Mais bien sûr, parce que vu l'allongement de la durée de la vie, si on n'est pas capable, nous, générationnellement, de comprendre, quand on est dans ces générations dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein, la génération 63, la génération 73, c'est un peu ce qui, ces deux derniers jours, après les déclarations du Premier ministre, a retenu l'attention des médias. Si on n'est pas capable de comprendre que, compte tenu de l'allongement de la durée de la vie, y compris en bonne santé, il va falloir travailler plus, tout simplement, comme ça se fait chez tous nos voisins aujourd'hui, on sera tout simplement en train de faire les poches des générations qui nous suivent. C'est ça le sujet. Déficit, il est porté par d'autres.
Si on dit l'enjeu de cette réforme, ce n'est pas un enjeu financier, c'est un enjeu d'équité. Il y a deux sortes d'équité. Il y a l'équité intragénérationnelle, c'est-à-dire dans une même génération, que tout le monde soit dans le même système. C'est ce à quoi la réforme du système par points répond. Et il y a l'équité intergénérationnelle entre les jeunes et les plus vieux. Et là, la réforme ne change rien. Elle ne change rien ni dans un sens, ni dans l'autre. Tout dépend après d'autres choses qui ne sont pas qui sont dans la réforme.
Des paramètres qui vont être posés, tout simplement.
Donc attendons encore
et des mesures autour d'âge légal et d'âge pivot, par exemple.
De manière plus générale, vous avez entendu le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'exprimait devant des étudiants à Amiens il y a quelques jours, et il leur disait, je cite, « En ce moment, notre pays est, je trouve, trop négatif sur lui-même ». Est-ce que vous partagez le constat, Laurent Bigogne ?
Oui et non. Pardon de cette réponse de Normand, alors que je suis Gorin. Je partage le constat parce que ce qui est très frappant dans toutes les grandes enquêtes internationales dont nous disposons, c'est un très faible niveau de confiance qu'ont les Français, à la fois dans leurs dirigeants politiques, mais aussi dans leurs voisins. Je suis frappé du bouquin que vient de faire paraître, c'est un groupe de quatre co-auteurs, dont Yann Algan et Daniel Cohen,
sur
la base des grandes enquêtes du CVPOF, où on voit que les niveaux de confiance interpersonnelle, à la fois, sont tomber très très bas dans notre pays, et que ça a des conséquences et des incidences sur les choix politiques qui sont très élevés. Donc oui, il y a un problème de confiance, et en même temps, est-ce qu'il faut aller dire aux Français et rappeler aux Français en permanence qu'il y aurait cette négativité et pouvoir penser que c'est un homme seul grâce au pouvoir présidentiel qui changerait les choses? Là, je pense que à la fois non, il sait pas bien de le faire. Ça n'a aucune utilité.
Moi, je pense que quand vous habitez du côté d'Aurillac, que vous avez donc toutes les petites lignes de train qui ferment, que vous avez des infrastructures qui sont pourries, que vous avez les PME qui ont fermé, que vous avez du coup, puisqu'il y a une démographie qui baisse parce qu'il n'y a plus de boulot, on vous explique que vous aurez plus d'hôpital, que vous aurez plus de tribunal.
Conclusion.
Eh bien, je ne vois pas comment on peut avoir confiance. Et si en plus on vient vous dire, si vous acceptez pas de travailler plus longtemps, c'est que vous êtes un salaud vis-à-vis de vos enfants. Là, je pense qu'il y a des gens qui craquent.
Le pays est trop négatif sur lui-même, Gilles.
Alors, Denis Oliven a publié un petit essai qui s'appelle « Le délicieux malheur français ». Hervé Lebras a publié, avec des cartes extrêmement intéressantes, un livre qui est un peu dans la même idée.
Se sentir mal dans un pays qui va bien.
Se sentir mal. Bon, est-ce que le président de la République est le mieux placé pour dire ça? Sans doute pas. Il y a malgré
peut-être
tout...
Peut-être qu'il se sent bien dans un pays qui va... Laurent Bigorne, c'est le dernier mot.
Qui va un peu mieux.
Un peu mieux. Donc le président de la République peut se rassurer.
Pour tous ceux qui ont trouvé un emploi, Natacha.
Non, pas
le chômage a baissé.
C'est malheureusement la fin de cette émission. Le débat est loin d'être terminé, mais il était passionnant. Merci Laurent Bigorne d'être venu au Grand Face à Face. Natacha et Gilles, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à Paola Puerari qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Merrier, à la technique Tiffany Battistel. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions Politiques.